Au micro, Idrissa Sedoudia, bonjour. Près d'un million de personnes ont été infectées par le coronavirus aux États-Unis, selon l'université Johns Hopkins. Plus d'un quart des 210 000 décès dans le monde ont été recensés aux États-Unis, qui déploraient lundi 56 144 morts. Le président américain Donald Trump, lors d'un point de presse à la Maison-Blanche, a déclaré « Nous sommes mécontents de la Chine, la maladie aurait pu être arrêtée à la source et ne se serait pas répandue dans le monde entier ». Il est allé jusqu'à évoquer une possible demande de réparation. Après 18 jours en réanimation à Los Angeles, les médecins de l'acteur canadien Nick Cordero, gravement malade du nouveau coronavirus, ont amputé sa jambe droite. Un caillot y bloquait la circulation du sang. C'est l'une des sombres découvertes de la pandémie, initialement prévue, perçue comme une virulente affection respiratoire, le COVID-19, attaque bien plus que les poumons. Déjà, on s'est aperçu que d'autres organes, comme les reins, étaient affectés. Encouragé par un ralentissement des contaminations, plusieurs pays européens et une dizaine d'États américains ont amorcé une sortie prudente du confinement pour une relance de l'économie. Parlant des autorités locales et gouverneurs en première ligne, le président Trump a déclaré « Nous voulons qu'il le fasse le plus vite possible, mais en toute sécurité », en espérant voir de nombreuses écoles rouvrir avant les vacances d'été. L'Organisation internationale du travail a appelé ce mardi les entreprises, dont certaines s'apprêtent à rouvrir, à respecter les mesures de protection face au coronavirus afin d'éviter une nouvelle vague de contamination. Ces mesures, estime le directeur général de l'OIT, Guy Ryder, sont indispensables. En Afrique de l'Ouest, les 8 pays de l'UEMOA ont décidé de suspendre leur pacte de convergence dans le cadre d'une stratégie communautaire pour faire face à la crise du coronavirus. La décision a été prise lors d'un sommet extraordinaire par visioconférence. Le pacte comprenait notamment la limitation de la dette, de l'inflation ou d'arriérés de paiement. Le confinement total de la capitale du Gabon, Libreville, et de 3 communes limitrophes, mises en place il y a 2 semaines pour limiter la propagation du coronavirus, va être assoupli, a annoncé lundi le Premier ministre. Il a expliqué ce déconfinement partiel par, entre autres, un risque de déstabilisation sociale. Le Gabon ne compte officiellement 176 cas, dont 3 décès. Au Nigeria, où les mesures de confinement ont entraîné de vives tensions sociales, le président Muhammadu Buhari a de son côté annoncé hier soir un déconfinement progressif à partir du 4 mai, mais il imposera un couvre-feu nocturne et le port du masque. La majorité de la population dépend de l'économie informelle pour sa survie. Il y a près de 1300 cas officiellement déclarés et 40 décès au Nigeria. Le président rwandais Paul Kagame a affirmé hier que, contrairement à des rumeurs persistantes, son pays n'a déployé aucun soldat en République démocratique du Congo voisine pour y lutter avec les forces congolaises contre les rebelles Hutus des FDLR. L'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a assuré lundi avoir obtenu le mandat du peuple pour gouverner la Libye, notamment promettant de poursuivre son offensive contre Tripoli, d'où il veut chasser le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Le maréchal Haftar n'a pas précisé auprès de quelle institution il avait reçu le mandat du peuple en question. Le président américain Donald Trump a semblé confirmer lundi que le leader nord-coréen Kim Jong-un était en vie, assurant connaître son état de santé et lui souhaitant bonne chance. Pétrole, le baril américain a chuté de plus de 14% mardi sur les marchés asiatiques après qu'un important fonds négocié en bourse a commencé à vendre ses contrats portés. La suite de nos informations. Au Burundi, démarrage hier de la campagne pour les élections présidentielles, législatives et municipales du 20 mai. Il y a eu de grands rassemblements malgré l'épidémie de coronavirus. Le point avec Lionel Gahima.
La campagne va durer jusqu'au 17 mai et chaque jour, elle commence officiellement à 6h et se termine à 18h, heure locale. Hier, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a mobilisé des milliers de partisans à Bugendana, dans la province de Gitega, dans le centre du pays. Le président Pierre Nkurunziza, qui ne se représente pas, a vanté les mérites de son héritier, le général Évariste Ndayishimiye, qu'il dit soutenir à 100%. Son principal adversaire, Agathon Rwasa, candidat du Conseil national pour la liberté et leader de l'ex-rébellion Hutu des FNL, a rassemblé une foule immense à Ngozi, sa province natale et fief du président Nkurunziza dans le nord du pays. Il a pris un bain de foule sur quelques kilomètres jusqu'au stade de Ngozi, où il a tenu son meeting. Le Burundi a recensé 15 cas de coronavirus, dont un décès, et la maladie n'a pas dissuadé les gens de se déplacer.
Au Burkina Faso, plusieurs centaines de commerçants ont manifesté hier à Ouagadougou pour demander la réouverture de tous les marchés fin mars pour lutter contre la propagation du coronavirus. Eric Manirakiza.
Rassemblés aux alentours des marchés Sankar Yaré et Nabiriyar, situés dans deux quartiers populaires de la capitale, les manifestants majoritairement des jeunes et des femmes ont élevé quelques barrages sur des voies à l'aide de pierres, de pneus usagés et de troncs d'arbres, empêchant toute circulation. Nous voulons la réouverture des marchés pour pouvoir reprendre nos activités et subvenir à nos besoins, a dit Soumaïla Tiendrebeogo, un vendeur de vêtements. Ces barrages ont ensuite été démantelés par les forces de l'ordre. Le 20 avril, les autorités ont rouvert le grand marché de Ouagadougou puis celui de Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, suscitant un grand espoir auprès des commerçants des autres marchés. Qu'ils ouvrent maintenant les marchés, c'est tout ce que nous voulons, affirmer leur porte-parole, Bibata Keïta. Selon une source auprès de la mairie de Ouagadougou, une réunion d'urgence a été convoquée avec les maires des différentes communes de la ville. L'épidémie a entraîné la fermeture d'une quarantaine de marchés dans la capitale le 25 mars, deux semaines après l'apparition de la maladie de Covid-19. Cette pandémie met à rude épreuve la fragile économie de ce pays, déjà éprouvée par les attaques de groupes djihadistes depuis 5 ans.
Le Togo a célébré hier les 60 ans de son indépendance très discrètement. La pandémie de Covid-19 a empêché tout rassemblement. Claire Morin-Gibourg.
À Lomé, le traditionnel défilé militaire et civil a été annulé. C'est une première dans l'histoire du pays en raison de l'état d'urgence décrété depuis le 1er avril. Tous les rassemblements et défilés prévus dans les autres préfectures du pays ont été annulés. Une petite cérémonie de prise d'armes s'est déroulée dans la cour du palais présidentiel en présence du chef de l'État, Fornia Simbe, mais elle n'a duré que 5 minutes en présence de ministres et du chef d'état-major des forces armées. Sur Twitter, le chef de l'État a affirmé que le Togo viendra à bout de la pandémie. Pour enrayer la propagation du coronavirus, un couvre-feu de 20h à 6h du matin a été instauré. Une unité spéciale anti-pandémie composée de 5000 agents est mobilisée pour faire respecter les restrictions imposées par les autorités. Le Togo compte une centaine d'infections au coronavirus, dont 6 décès.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Au Maroc, environ 4,3 millions de familles tirant leurs revenus du secteur informel ou de métiers précaires vont bénéficier d'aides financières pour affronter la crise de coronavirus dans le cadre d'un fonds spécial d'urgence Covid-19. Ces aides vont de 75 à 110 euros par mois selon la taille du foyer. Par ailleurs, ces personnes bénéficieront d'un gel des factures d'eau et d'électricité et des reports de crédit à la consommation. Des distributions alimentaires ont aussi commencé dans toutes les régions du pays pour les plus démunis. En Égypte, les réserves de la Banque centrale ont chuté à 40 milliards en mars contre 45,5 milliards de dollars en février à cause de la pandémie du coronavirus qui a causé la mise à l'arrêt des secteurs du tourisme et de l'aviation civile, a affaibli l'économie et a poussé le gouvernement à demander une aide internationale. L'Égypte est en pleine discussion avec le FMI afin d'obtenir une assistance technique et une aide financière d'un an pour affronter la récession. Pour terminer, en Libye, la monnaie locale se négocie désormais à 3700 livres libanaises pour 1 dollar dans les bureaux de change, contre 1507 livres pour 1 dollar selon le taux officiel. Cette dégringolade continue de la monnaie nationale face au dollar entraîne une forte inflation et attise la colère des Libyens. La situation économique du pays est également aggravée par les mesures draconiennes de confinement mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le gouvernement italien va autoriser les sportifs de haut niveau à reprendre l'entraînement en mai. Dès le 4 mai, les entraînements seront autorisés, mais sans rassemblement et à huis clos. Pour les sports individuels, a déclaré le Premier ministre Giuseppe Conte. Il n'a en revanche pas tranché quant à la date d'une éventuelle reprise du championnat. M. Conte a simplement indiqué que la Serie A ne reprendra que lorsque les conditions de sécurité seront réunies. La fédération a réaffirmé sa détermination à reprendre la compétition et sa volonté de repousser au 2 août la fin de la saison sportive 2019-2020. En Angleterre, Chelsea n'imposera pas de réduction des salaires à ses joueurs. Comme recommandé par la Première Ligue, il leur a plutôt demandé de faire des dons à des organisations caritatives engagées contre le coronavirus. Chelsea n'aura en outre pas recours au chômage partiel sur les deniers publics pour ses salariés non joueurs. De son côté, le club d'Aston Villa a indiqué que ses joueurs ont accepté le paiement différé de 25% de leur salaire pendant 4 mois. Arsenal, Southampton, West Ham et Watford ont déjà annoncé des accords de baisse ou de report de salaire pour préserver leurs finances. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, serait intervenu auprès du procureur général de la Suisse pour qu'une enquête le visant soit abandonnée. C'est ce qu'affirme le quotidien suisse La Tribune de Genève. La justice suisse a commencé à enquêter début 2016, peu après son élection à la tête de la FIFA, sur l'attribution par Gianni Infantino d'un contrat de droit télévisé à une société offshore, alors que le dirigeant était encore juriste en chef de l'UEFA. Selon la Tribune de Genève, inquiet de cette enquête, M. Infantino a écrit à son ami d'enfance, Rinaldo Arnold, devenu procureur en Suisse. Ce dernier aurait alors aidé à organiser une rencontre entre le procureur général Michael Lauber et M. Infantino en novembre 2017. Après un troisième rendez-vous informel entre M. Infantino et Lauber, le ministère public a mis fin à l'enquête sur le contrat signé par M. Infantino à l'UEFA. Ici aux États-Unis, les centres d'entraînement des équipes de NBA vont rouvrir le vendredi 1er mai. Dans les États américains où les mesures de confinement liées au coronavirus ont été assouplies, les joueurs ne pourront toutefois pas s'entraîner ensemble et devront se limiter à des exercices individuels dans un environnement contrôlé. Cette réouverture des centres devrait concerner des équipes comme les Hawks d'Atlanta et le Thunder d'Oklahoma City, situés dans les États de Géorgie et de l'Oklahoma, parmi les premiers à avoir allégé le confinement et les restrictions de circulation. La saison 2019-2020 est interrompue depuis le 12 mars. Le patron de la NBA, Adam Silver, a déclaré qu'il ne se prononcerait pas sur une éventuelle reprise avant le mois de mai.
Chers auditeurs et auditrices, Renato Camara, votre artiste, chanteuse, compositrice. Aujourd'hui, nous luttons contre l'invisible coronavirus, une pandémie qui ravage nos vies autour du monde. Pour sauver ma vie et celle des autres, je respecte le confinement et les distances de sécurité. Je prends mes mesures sanitaires, je me couvre le visage quand je tousse ou quand j'éternue. Je me lave les mains régulièrement et porte des gants lorsque je sors de chez moi. Mes chers amis, famille, fans de tous les jours, auditeurs et auditrices, pour mettre fin à cette pandémie, protégez-vous et protégez votre entourage. À très bientôt dans nos vies de tous les jours et dans les concerts. Portez-vous bien et prenez soin de vous.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour ce matin sur ces cas de mort un peu mystérieux à Kano, au Nigeria. On parle de plus de 600 personnes mortes ces deux dernières semaines. Alors dans ce climat de pandémie actuelle, on a vite fait de penser au Covid-19. Il n'en est rien selon Adam Boubacar, universitaire à Kano. Il a été joint dans cette ville du nord du Nigeria par Bagassi Koura.
Oui, mais les 600 morts qu'on parle à Kano, ce n'est pas la mort du coronavirus. Les 600 morts, tu sais, souvent, il y a chaud à Kano, donc, et puis le confinement aussi a compté. Il y a certains gens qui sont malades, qui n'ont pas accès à des hôpitaux, donc vous voyez, tout ça, ça a causé la mort. Et d'autres aussi qui sont en confinement, ils n'ont pas d'argent et pour avoir les vivres, vous voyez, donc des fois, la mort, ce n'est pas Corona qui a causé les 600 morts. Comme je vous avais dit, beaucoup sont malades, il y a beaucoup qui sont diabétiques, il y a beaucoup qui ont les tensions, vous voyez.
Alors, vous dites que ce n'est pas lié au Covid-19, et ce n'est pas lié à une maladie particulière, que c'est lié aux conditions de vie générales.
Oui, mais si vous voyez, si vous regardez vraiment le map de Kano, chaque année, souvent, si il y a le changement de climat, on a d'abord pareil, mais cette fois-ci, comme il y a le confinement, donc les gens ont les yeux sur Kano, comme déjà il y a eu déclaration qu'il y a Corona à Kano ou le Covid-19 que tu viens de dire. Vous voyez donc les gens pensent que c'est Corona qui tue les gens. Non, pas du tout. Ce n'est pas Corona qui tue les gens. La majorité, ils sont malades, ils sont en train de se soigner. Donc maintenant, ils sont tombés en décadence. Donc les gens pensent que c'est Corona. Non, ce n'est pas Corona.
Comment est l'ambiance en ce moment à Kano? Est-ce que les gens sont paniqués?
Ça va, vous voyez, les gens ne viennent pas respecter le confinement à 100%, parce que ce que je viens de vous dire, je viens de la ville comme ça, parce que les gens ont faim, mais ils ne peuvent pas respecter le confinement à 100%, parce que l'État de Kano ou l'État fédéral n'a pas assisté la population. Donc, vous voyez, donc les gens sortent pour avoir ce qu'il faut manger. Et puis, vous voyez, maintenant, Kano à 99% est un État islamique, c'est le carême, et les gens se cherchent à trouver ce qu'il faut manger.
Et qu'est-ce que les autorités font face à cette situation?
Mais les autorités ont toujours démenti que ce n'est pas le Covid-19 qui a tué la population. Donc, ils ont démenti eux aussi. Mais le grand problème, c'est quoi, comme je viens de vous le dire, les hôpitaux ne sont pas fonctionnels comme il le faut, parce que même les docteurs ont peur. Et puis, vous voyez aussi le test de Covid-19 à Kano aussi. Vous vous rappelez, l'ancien gouverneur de l'État de Kano vient d'écrire au président Mamadou Bouhari qu'il intervient rapidement à Kano, parce que si vous regardez la situation, jusqu'à présent, l'État local ne prend pas en charge 100%.
Adam Aboubakar, universitaire à Kano, dans le nord du Nigeria.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la pandémie du Covid-19 et ses conséquences sur l'ordre économique et diplomatique mondial. La propagation du nouveau coronavirus a fait subir des pertes énormes aux économies des pays les plus riches et fragiliser davantage celles des pays en développement. Cette crise sanitaire va-t-elle impulser une nouvelle dynamique dans les relations internationales? Quel rôle l'Afrique peut-elle jouer dans un monde post-Covid-19? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi 30 avril 2020 à 19h, heure universelle, sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Mali, ce 21 avril, le cinéaste Souleymane Cissé a soufflé sur ses 80 bougies. Le grand réalisateur du 7e art se dit bouleversé par la situation causée par le coronavirus, et ce, en raison du comportement de certains Maliens qui ne croient pas en cette pandémie. Souleymane Cissé a suivi le début de la pandémie de San Francisco à Bamako. Il s'est confié à notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
J'ai été invité par l'université de Berkeley pour une projection de trois de mes films, ILE, Bara et Finia. Mais deux jours, je ne sais pas qu'est-ce qui a accéléré après mon arrivée, le 11, le 12, le 13, on m'annonce que l'université est fermée et qu'on a demandé à tous les étudiants de retourner chez eux, que les cours seront donnés par courrier électronique. Ah, j'ai dit bon, alors donc ça y est, l'Amérique aussi est touchée. Ensuite, 24 heures, on vient m'annoncer que toutes les salles de cinéma sont fermées. Donc, toutes les programmations que l'université avait mises sur place étaient annulées. Et on me dit, bon, monsieur Cissé, c'est dommage, voilà, il n'y aura pas de projection. Mais exceptionnellement, l'université a décidé de faire une projection pour le film Yélé, mais qui ne dépassera pas 100 personnes, vu comme on appelle les règles sanitaires, on ne peut pas dépasser cela. Finalement, on a fait la projection de Yélène dans de très bonnes conditions, avec une salle de 100 personnes. Après le film, on est resté. Le débat était très intéressant, parce que c'était des grands cinéphiles, les étudiants et les professeurs. Et comme j'avais encore 48 heures à Berkeley, on m'a dit d'aller à San Francisco pour me promener.
T'as trouvé qu'il y avait des gens dans la ville ou que c'était comment?
Ah oui, les gens étaient timidement, il y avait des gens timidement. Là, j'étais étonné parce que au port de San Francisco, je trouve un grand monument qui était le monument de Gandhi. Ça m'a surpris. Au port, il n'y avait personne, on ne marchait même pas. Et c'était le 17, je devais prendre le vol. Et donc, j'ai pris le vol. Puis après 6 heures de vol, New York-Paris. Arrivé, j'ai vu qu'il y a que des avions arrêtés partout, personne ne bouge. Et arrivé à Bamako.
Il y a une différence ou bien c'est comment comparé à tout ce que vous avez vu à San Francisco et à Paris?
Non, c'est le cafouillage, personne n'était au courant qu'il y avait ce virus-là. J'ai dit bon, mais c'est sérieux cette affaire-là. Mais j'ai failli tomber parce que ça faisait déjà 4 semaines que je ne voyais pas de monde. Et que du coup, je me retrouve en plein milieu de ce monde. Alors là, ça m'avait dépassé. Donc j'ai dit, écoute, il y a quelque chose. Soit nous ne sommes pas sur la même planète que les autres, soit je ne sais pas qu'est-ce qui se passe.
Chez le bon... long métrage un jour sur cette pandémie.
Chez le bon Dieu, je pense que tout n'est pas négatif. Donc il faut trouver le côté positif et je pense que sur cette pandémie, il faut... On avait déjà fait un film là-dessus qui s'appelle Contention en 2018, qui parlait exactement comme la chose se passe aujourd'hui.
Mais cette fois-ci, sauf que ce n'est pas du cinéma.
C'est là, ce n'est plus le cinéma, c'est la réalité que nous vivons tous les jours. Et voilà, protégeons-nous toujours. Personne n'est à l'abri. Et je le dis, je le répète, ceux qui n'y croient pas à cette maladie, qu'ils le croient. Ceux qui l'ont vécu, qu'ils continuent à se défendre.
Le cinéaste malien Souleymane Cissé.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités du parc de Virunga ont organisé hier les obsèques de 12 éco-gardes tués vendredi dernier dans une attaque attribuée aux combattants hutu-rwandais des FDLR dans le parc, à environ 40 km au nord de Goma. Les familles restent inconsolables, mais les activistes de l'environnement ne veulent pas baisser les bras. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, a assisté à la cérémonie.
C'est à la morgue du centre hospitalier de Keshero que la cérémonie a été organisée devant les autorités politiques et celles du parc de Virunga, mais aussi plusieurs membres des familles des Rangers tués le vendredi dernier dans le parc. Après les requêtements des autorités et dépôt des gerbes et des fleurs, les 7 corps ont été acheminés au cimetière de Macao pour inhumation. En plus de ces 7 corps enterrés à Goma, l'Institut congolais pour la conservation de la nature prévoit également d'inhumer d'autres corps à Beni, Butembo et Lubero, ville d'origine de certains de ces éco-gardes tués. Devant les cercueils, le directeur du parc de Virunga, Emmanuel Demerode, a voulu rassurer les familles des victimes.
Ce qui nous est le plus précieux que nous perdons aujourd'hui, nous ne trouvons qu'une seule manière de rendre hommage à ces jeunes qui ont fait preuve d'un courage absolu pour leur pays, c'est de continuer leur travail. Je m'adresse bien sûr aux familles éprouvées en leur disant que l'Institut congolais pour la conservation de la nature, c'est également une grande famille. Vous ferez toujours partie.
Vendredi dernier, un convoi de civils escorté par les Rangers est tombé dans une embuscade tendue par plusieurs dizaines de miliciens. 12 éco-gardes ont été tués lors de cette attaque. Inconsolables depuis l'annonce de cette attaque, les membres des familles demandent des enquêtes pour élucider les vrais auteurs de ces drames.
Comment nous allons venger ces enfants? Je sais très bien qu'ils sont morts armes à la main et ils étaient dans leur métier, c'est vrai. Mais pourquoi ils ont été tués?
Pour les activistes environnementalistes, pas question de baisser les bras, la lutte doit continuer pour honorer la mémoire de tous ces éco-gardes qui sont tués chaque fois. Olivier Ndoole est activiste pour la protection de l'environnement.
Je crois qu'ils ont payé les prix les plus lourds jusqu'au sacrifice suprême et la manière de les honorer, c'est de consolider ce qu'ils ont eu à faire. Les groupes armés n'ont qu'un agenda politique d'exploiter pour avoir des richesses illégalement. Donc c'est un combat, je crois, qu'il est difficile à mener, mais que nous sommes obligés de mener avec tous les acteurs, y compris les acteurs politiques. Donc il faudra avoir un plan concerté pour combattre tous ces illégaux et les mettre hors d'état de nuire.
Plus ancienne réserve naturelle d'Afrique, inaugurée en 1925, le parc de Virunga est un sanctuaire de gorilles et de montagnes. Mais aussi ce parc est un terrain d'action de plusieurs dizaines de groupes armés actifs dans la zone comme les rebelles Hutu Rwandais des FDLR, très présents dans la zone d'attaque. Les visites dans les parcs ont été suspendues depuis le 19 mars dernier. C'est dans le cadre des mesures de prévention face à l'épidémie de coronavirus. Toutefois, les personnels et les équipes techniques sont les seuls habilités à circuler sur la zone pour la sécurisation du parc. Depuis Goma, Charlie Kassereka pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Certains États américains ont assoupli les restrictions liées au COVID-19, ouvrant certains commerces. D'autres rouvriront leurs activités au cours des prochaines semaines. Plusieurs gouverneurs ressentent la pression que le blocage de la pandémie a exercée sur leurs économies et se tournent vers le gouvernement fédéral pour obtenir des fonds. Reportage d'Elisabeth Lee de VOA, repris ici par Nathalie Barge.
Après des semaines de blocage, les niveaux du chômage ont monté en flèche. Même les entreprises qui sont restées ouvertes souffrent. L'économie américaine connaît des répercussions historiques, souligne l'économiste Kevin Assett, conseiller principal à la Maison Blanche.
C'est le plus grand choc négatif que notre économie ait jamais vu. Nous allons atteindre un taux de chômage qui s'approche des taux que nous avions pendant la Grande Dépression.
Les États sont confrontés à une pression financière devant prévoir une augmentation des allocations de chômage et font face à une baisse des recettes fiscales due à la fermeture d'entreprises. Plusieurs gouverneurs plaident pour que le Congrès inclue le financement des États dans le prochain plan de relance. Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, est le président de l'Association nationale des gouverneurs.
Nous sommes en première ligne, nous avons pris toutes ces mesures, nous avons fourni ces services nécessaires pour aider les gens à se remettre sur pied. C'est essentiel au rebond de notre économie.
Mais de nombreux républicains ainsi que les économistes de la Maison Blanche, comme Kevin Assett, mettent en garde sur l'augmentation de la dette fédérale après avoir déjà fourni plus de 2 000 milliards de dollars en financement de relance.
Je pense qu'au cours de la prochaine phase de la loi, nous devons réfléchir sur ce que nous pouvons faire à long terme pour essayer d'aller de l'avant sur la courbe de la dette. C'est sûr que nous devons encore agir à court terme, mais on devrait examiner les changements que nous pouvons apporter à long terme pour améliorer la situation de la dette.
Les gouverneurs et législateurs de certains États disent qu'il doit y avoir plus de tests avant que l'économie rouvre complètement. Les gouverneurs et les membres du Congrès doivent non seulement équilibrer la santé et la sécurité des Américains avec les dommages économiques causés par un verrouillage continu, ils doivent également naviguer dans la lutte politique qui se profile à Washington à l'approche de l'élection présidentielle prévue début octobre.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en œuvre. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.